pour faire le point sur l'actualité de la recherche, pour remettre en perspective les avancées et les espoirs également. Nous accueillons maintenant le docteur Aline Zaria, qui est neurologue au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche et au Centre National de Référence Malade Alzheimer Jeune du CHU de Rouen. Et préparez vos questions pour les échanges dans 20 minutes, juste après l'intervention du docteur Zaria.
Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, pour prendre la suite de l'intervention précédente, je vais donc vous parler de l'actualité de la recherche, mais je me suis focalisée sur la recherche thérapeutique, parce que la recherche, c'est quand même un terme assez vaste, et il y a quand même des actualités assez brûlantes dans la recherche thérapeutique, donc je vais ne parler que de ça aujourd'hui. J'imagine, ouais. Juste pour mes liens d'intérêt, il y en a... Moi, je n'en ai pas personnellement. Je participe à des essais thérapeutiques dans le cadre de mon activité au CHU de Rouen. Mais voilà, il n'y a pas d'autres liens particuliers. Donc, pour commencer, je vous redonne quelques éléments sur la maladie d'Alzheimer. C'est donc une maladie neurodégénérative qui résulte de l'agrégation, donc du dépôt au niveau du cerveau, de deux protéines, en commençant par la protéine amyloïde qui va s'agréger et se déposer dans le cerveau et induire d'autres phénomènes, et notamment le dépôt de la protéine tau qui va engendrer un dépôt qu'on appelle une dégénérescence neurofibrillaire au sein des neurones. Donc là, vous voyez un petit peu des images de ça. Et si on reprend plus précisément, en fait, il y a cette protéine amyloïde qui est normalement dans le cerveau et qui subit une maturation, comme la plupart des protéines de notre corps. Et en fait, dans la maladie d'Alzheimer, il va y avoir un métabolisme un peu différent qui va générer ce peptide A-bêta que vous voyez. Je peux mettre un pointeur ou pas ? Non, il n'y a pas de pointeur ou de... Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Non ? C'est pas grave. Donc, vous voyez la bêta qui va être produit et qui est soluble dans le milieu du cerveau et qui, en fait, va se mettre dans une conformation qui va favoriser l'agrégation. Et donc, ça va ameuter d'autres protéines autour d'elle et ça va créer un amas qu'on va appeler des oligomères. Et plus on en rajoute et plus ça fait un amas important jusqu'à former les plaques amyloïdes. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette formation de plaques amyloïdes va ensuite induire d'autres phénomènes avec les dégénérescences neurofibrillaires, de l'inflammation, qui va ensuite induire une mort des neurones et induire les troubles neurocognitifs et comportementaux. En fait, c'est encore un peu plus compliqué, et vous voyez qu'il y a plein de flèches, en fait, avec plein de conséquences diverses et variées, avec de l'inflammation, de l'oxydation, de la toxicité au niveau des neurones. Donc c'est tout un tas de phénomènes très complexes, et on y reviendra tout à l'heure, qui induit les symptômes de la maladie. Après ce bref rappel sur la maladie, c'est pour vous introduire les traitements. Donc il existe plusieurs types de traitements, que ce soit pour la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies, mais on les classe en plusieurs types avec des traitements qu'on va appeler symptomatiques, qui visent à réduire et à contrôler certains symptômes de la maladie sans guérir la pathologie sous-jacente. Et donc on va retrouver dans ces traitements-là des traitements qui vont servir à stimuler la mémoire et les fonctions cognitives. Et ces traitements-là, c'est ceux dont on dispose actuellement en France avec le donépezil, la galantamine, la rivastigmine et puis d'un autre côté la mémantine. Et il y a d'autres traitements qui visent à contrôler certains symptômes, notamment des troubles psychocomportementaux qui peuvent être induits par la maladie. Et là, on a d'autres molécules qui existent. Et donc, si on réfléchit un peu à quand on fait une étude pour viser à tester l'efficacité d'une molécule, pour les traitements symptomatiques, par exemple, vous voyez sur ce schéma, on va avoir en bleu l'évolution standard d'une maladie d'Alzheimer avec une évaluation sur le plan cognitif. Donc vous voyez les fonctions cognitives qui vont décroître petit à petit au cours du temps. Et le fait de mettre en place un traitement va essayer de ralentir un peu cette évolution. Et théoriquement, si on arrête le traitement, finalement, il y a une évolution un peu parallèle entre le groupe qui n'a pas eu de traitement et le groupe qui a eu un traitement. Et c'est, voilà, ça contrôle certains traitements, mais ça n'empêche pas l'évolution de la maladie, après, sur un rythme un petit peu similaire. Et d'un autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les traitements curatifs ou qu'on appelle disease modifying, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact sur l'évolution naturelle de la maladie. Avec, vous voyez, finalement, quand on arrête le traitement, vraiment un écartement des courbes au cours du temps et non plus une évolution parallèle. Donc ça a pour but de vraiment jouer sur le cours évolutif. Et donc là, il y a plusieurs traitements qui ont été développés dans la maladie d'Alzheimer et on va en parler maintenant. Donc finalement, un peu d'historique sur la recherche, sur ces traitements disease modifying. Les premières molécules qui ont été développées se sont intéressées au peptide qui est à l'origine de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le peptide amyloïde, et donc il y a eu des traitements qui se sont intéressés pour viser la protéine amyloïde, essayer d'enlever ces plaques amyloïdes, et donc ça a commencé à partir des années 2000, où il y a des molécules qui ont montré qu'ils pouvaient avoir une action sur la charge et sur les dépôts amyloïdes au niveau des animaux, puis en 2010 au niveau des humains. Et puis, il y a eu plusieurs types de molécules qui ont été testées, développées au cours du temps et sur les 15 dernières années, avec quand même, malheureusement, beaucoup de déceptions, avec des cibles, voilà, ça marche, mais ça ne marchait pas complètement. C'était des cibles qui étaient partiellement atteintes, sans effet sur les autres marqueurs de la maladie, comme on a parlé, sur la protéine tau, sur la dégénérescence qui est induite, et puis surtout, il n'y avait pas d'effet clinique. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas et comment il fallait faire évoluer les choses pour que ça marche. Et donc, les conclusions de ces réflexions, ça a été de cibler mieux la population en diagnostiquant mieux la maladie. Et donc ça, le docteur Demurger vous en parlera tout à l'heure. Et puis probablement qu'il fallait traiter plus tôt et qu'une fois que les lésions étaient trop installées, les enlever ne provoquait pas d'arrêt de la maladie. Il y avait d'autres processus qui partaient pour leur propre compte et qu'on ne pouvait plus stopper les choses. Donc l'idée était de vraiment traiter des maladies d'Alzheimer, parce que si on traite d'autres maladies, c'est normal que ça ne marche pas, et de traiter très tôt les gens. Et puis, il a fallu développer des molécules qui captaient mieux la cible, ou le peptide amyloïde, ou la cible qu'on voulait, avec le développement de molécules plus efficaces. Trouver d'autres cibles également dans la maladie, parce qu'on s'est intéressé beaucoup à la protéine amyloïde, mais en fait, on a vu dans le schéma tout à l'heure qu'en fait, il y a plein d'autres processus en cours, et que donc, il fallait probablement élargir un petit peu les cibles recherchées, et qu'il fallait se donner le temps de traiter, parce que ce sont des maladies qui évoluent sur des années, et que pour capter une différence, il faut se donner le temps de voir un peu l'évolution. Pour l'instant, voilà, les études sont au moins sur 18 mois, mais il y a des études qui évoluent aussi sur plusieurs années pour essayer de capter une évolution. Et donc finalement, quand on revient sur cette chronologie, en 2018, il y a des traitements qui ont commencé à montrer une efficacité plus importante, le lecanemab, le donanemab, dont on va reparler tout de suite. Tout ça pour arriver à ce constat-là de l'état de la recherche thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer en 2024. Au 1er janvier 2024, on avait 164 protocoles thérapeutiques en cours dans le monde, avec 127 molécules testées, 35 nouveaux protocoles par rapport à 2023, et un temps moyen de développement d'une molécule de 10 à 13 ans. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de recherches, et je vais vous détailler un petit peu ce schéma vers plein de cibles et plein de stratégies différentes. Vous voyez qu'en fait, la partie verte et violette s'intéresse à ces fameux traitements disease modifying, donc qui ont pour but de vraiment faire évoluer la maladie, traitement curatif, on va dire, avec sur la partie externe de cette cible, les études de phase 1, c'est-à-dire les études qui visent à tester pour la première fois chez l'homme des nouvelles molécules et à évaluer un petit peu la tolérance. Les phases 2, dans le milieu de cette cible, c'est les phases où on évalue quelle dose il faut mettre, encore la tolérance sur un sur une population un petit peu plus large. Et puis les phases 3, ce sont les dernières phases d'évaluation où on va tester sur un grand nombre de personnes malades de la maladie d'Alzheimer et pour tester l'efficacité vraiment du traitement, sa tolérance. Et ensuite, c'est à la fin de ces études qu'on appelle de phase 3 qu'on va décider si le traitement peut avoir un intérêt et que les personnes qui ont développé ces traitements vont pouvoir les proposer aux différentes structures gouvernementales pour une mise sur le marché. Donc, on va détailler un petit peu plus... Donc, en vert et en violet, c'est les molécules donc disease modifying. Donc, vous voyez qu'il y en a énormément en cours de développement. Certaines qu'on connaît déjà et puis d'autres qui sont en cours de développement. La partie orange, c'est sur la partie plus stimulation cognitive sur les traitements symptomatiques. Et puis la partie bleue pour la prise en charge des traitements des troubles psychocomportementaux, comme on a vu tout à l'heure. Donc, je vais vous détailler un petit peu surtout les anti-amyloïdes, qui sont quand même la partie la plus développée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a eu de nombreuses molécules qui ont été développées, qui ciblent toutes les étapes de la formation de la plaque amyloïde, en partant du peptide initial, de la protéine initiale, qui va être coupée en plusieurs bouts, puis qui va s'agréger petit à petit et former les plaques. Et donc, vous voyez qu'il y a un grand nombre de molécules qui va à chaque fois essayer de cibler une des parties, et principalement des anticorps, c'est-à-dire des molécules qui vont reconnaître une partie spécifique de la protéine amyloïde et donc qui vont aussi avoir une affinité plus grande si, selon la phase de développement de la maturation de la protéine. Et donc finalement, les trois derniers qui ont été développés sont des molécules qu'on appelle de dernière génération, qui ont été développées, comme je vous ai dit, pour être très efficaces et avoir la capacité d'enlever l'amyloïde de manière très importante. Et donc, voilà, toutes ces trois dernières molécules qui ont été testées, l'aducanumab, le lecanemab et le donanemab, qui ont des noms un peu compliqués, mais voilà, c'est les noms des molécules des anticorps qui finissent comme ça en MAB, dont on a eu les résultats en 2022 et 2023. C'était toutes des études internationales où on testait la molécule contre un placebo sur des populations de 1700 participants environ, où à la fois le patient, le personnel médical ne sait pas si la personne reçoit le traitement ou le placebo. Et la durée de traitement était de 18 mois environ, et ça s'adressait à une population qui avait des troubles débutants, avec un MMS, qui est une échelle d'évaluation de l'atteinte du trouble cognitif, et plus on est haut, mieux ça va, et plus on descend, plus l'atteinte cognitive globale est importante, et donc on voulait des MMS entre 24 et 22 sur 30, donc voilà, des personnes qui avaient un déficit cognitif qui était léger. Je vais vous présenter du coup un extrait des résultats de ces trois études en me focalisant surtout sur lecanemab et donanemab. L'aducanumab avait des résultats un peu plus discordants que les deux suivants. Donc, pour commencer sur l'objectif. L'objectif de ces traitements, c'est de viser la protéine amyloïde. Donc, il faut déjà vérifier si ces traitements visent leur cible et atteignent leur cible. Et donc, on va faire, par exemple, un PET amyloïde, qui est un examen d'imagerie qui vise à détecter les dépôts d'amyloïde dans le cerveau. Vous voyez tout en haut la courbe de ceux qui reçoivent le placebo tout au cours du temps, qui est en noir et qui reste au plafond. Et donc, plus on est en haut, plus il y a de dépôts d'amyloïde, et plus on descend, moins il y a de dépôts. Et donc, on voit que pour le donanemab en orange, l'aducanumab en vert et le lecanemab sur la courbe violette, toutes descendent et arrivent dans le carré violet qui est en bas, il n'y a plus de dépôt amyloïde. Donc ça veut dire que le traitement est très efficace, il arrive à enlever complètement les dépôts amyloïdes du cerveau. Et donc 80%, c'est sur le schéma que vous voyez à droite, que 80% des personnes n'ont plus du tout de protéines amyloïdes dans leur cerveau. Ce sont des maladies d'Alzheimer, tous. Donc, c'est efficace sur la protéine amyloïde. Et on s'est rendu compte que sur les autres marqueurs de la maladie, donc la protéine tau, comme on voit ici, vous avez lecanemab d'un côté et le donanemab, mais qui montrent des résultats similaires. Vous avez en noir le placebo qui est en haut, et en bas, on voit que les marqueurs d'atteinte liés à la protéine tau diminuent. Et on a le même genre de courbe quand on s'intéresse aussi à la dégénérescence, à la mort neuronale. Donc ça marche au niveau du cerveau. Et donc la question, c'était, est-ce que ça marche aussi au niveau des fonctions cognitives, ce qui est quand même l'objectif principal de ces études, c'est que les gens aillent mieux. C'est certes important que leur cerveau aille mieux, mais surtout, il faut qu'ils aillent mieux dans leur vie quotidienne. Et donc, sur des échelles d'évaluation des fonctions cognitives, de manière un peu globale aussi, qui ici s'appelle la CDR, bon, c'est une échelle d'évaluation globale, plus on est en haut et mieux ça va, et plus on diminue, pareil, plus le déficit est important. On voit en bleu la courbe des gens qui sont sous placebo, qui diminue progressivement au cours du temps. Et en jaune et orange, pour le lecanemab ou le donanemab, on voit dans les deux cas qu'il y a une diminution de 27% du déclin cognitif à 18 mois sous traitement, de manière similaire entre les deux molécules. C'était la première fois que des molécules montraient un effet significatif, positif, dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même très important, une révolution, un espoir important. Et on a quelques données qui commencent à arriver sur l'effet un peu à long terme. Là, c'est pour lecanemab, où en fait, il y a eu la période de 18 mois des traitements, puis un arrêt des traitements, le temps de passer tout le monde sous le lecanemab. Et donc la partie au milieu bleu est la période où il n'y a pas de traitement. On voit que finalement les gens qui ont été traités, c'est la courbe noire, continuent de s'améliorer, enfin restent stables et rejoignent pas les gens qui ne sont pas traités. Et puis finalement quand on traite tout le monde, ceux qui n'avaient pas reçu le traitement s'améliorent aussi quand même, rejoignent pas complètement la courbe de ceux qui ont été traités dès le début, mais ils bénéficient quand même du traitement. Donc il y a quand même un effet au long cours qui persiste, et ça, ce sera à confirmer sur d'autres études. Mais il y a des incertitudes qui persistent, et est-ce que cette différence de 27%, qui paraît quand même très importante, est-ce que c'est suffisant pour induire une modification en termes de qualité de vie, en termes de retentissement dans le quotidien des troubles cognitifs? Et donc ça, c'était moins sûr. Donc, l'autre chose qu'il faut évoquer, c'est les effets indésirables. Les anti-amyloïdes induisent ce qu'on appelle des ARIA, c'est des anomalies radiologiques liées à la protéine amyloïde qui sont induites par ces traitements anti-amyloïdes, et ce sont valables pour tous les traitements. Il y a deux formes qui existent, soit des œdèmes, soit des hémorragies, qui sont la plupart du temps asymptomatiques, mais qui peuvent survenir de manière assez fréquente, et certaines personnes vont présenter des symptômes. Dans les études, c'est à peu près pareil. Depuis le début qu'on teste des anti-amyloïdes, il y a quand même entre 15, 20, jusqu'à 30% des gens qui vont avoir ces effets indésirables. Et donc, ça nécessite une surveillance et de mieux évaluer quels sont les facteurs de risque de survenir de ces effets indésirables qui surviennent la plupart du temps tout au début du traitement. Une fois qu'on a passé les premières injections, le risque diminue nettement. Donc en pratique, l'aducanumab a une autorisation aux États-Unis, mais n'est pas remboursé, donc n'est pas utilisé. Le lecanemab a une autorisation aux États-Unis, en Japon, Chine, Australie, Grande-Bretagne, et l'Agence européenne a donné un refus le 24 juillet 2024, avec un recours qui est déposé en septembre, avec une nouvelle réponse attendue pour la fin de l'année, début 2025. Et le donanemab a eu une autorisation très récemment au mois de juillet aux États-Unis, et une demande d'autorisation a été réalisée pour l'Agence européenne, mais pour l'instant, pareil, on attend une réponse pour fin d'année, début 2025. Il y a plein d'autres cibles à tester. Un petit mot sur les antitaux qui ont, pareil, plein de traitements qui sont en cours de développement sur différentes cibles, avec pour l'instant peu de résultats, mais toujours des traitements en cours avec des études auxquelles la France participe. Et le futur, est-ce que ce n'est pas aussi des combinaisons de plusieurs de ces traitements? Et avec aussi, vous voyez, beaucoup d'autres molécules qui sont développées, qui vont cibler d'autres voies de traitement. Donc pour conclure, la recherche est très active.
Il y a enfin pour la première fois des résultats positifs des traitements, qui sont là des, en l'occurrence des traitements anti-amyloïdes, sur les marqueurs de la maladie, mais sur la cognition, et ça c'est vraiment très important. C'est le début d'une nouvelle ère thérapeutique, mais c'est des effets cliniques qui restent encore modestes à vérifier dans le temps, avec des effets secondaires qu'il faut qu'on apprenne à manager et à prendre en charge. Donc il faut continuer les efforts avec le développement de médecine de précision, proposer le bon traitement à la bonne personne au bon moment, avec la place des traitements symptomatiques encore, peut-être des combinaisons de traitements, et puis ben, un diagnostic précoce et précis, et ça c'est vraiment très important, de poser un diagnostic dès le début de la maladie, et ça, vous allez avoir la présentation suivante qui va vous en parler.
Merci beaucoup, restez avec nous.